Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Aujourd'hui, on va parler d'enfants, d'écran et d'énervement avec des lois et des recommandations. On a aussi Apple qui recule encore face à l'Union européenne. S'arrêteront-ils un jour ? Et enfin, l'IA utile avec 4 exemples d'IA utile. J'espère que vous entendez les guillemets dans ma phrase. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Non, mais si, c'est utile, l'IA. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment pratiques, intéressants, intrigants. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja. C'est l'épisode numéro 564 du Rendez-vous Tech. Nous sommes en mai 2024 et je suis très heureux d'accueillir auprès de moi. J'ai presque dit de recueillir auprès de moi Cédric et Corben. On est au mois de mai, il y a des ponts, il y a des enfants qui sont régulièrement... comment tu disais, Corben, tout à l'heure, il joue à Fortnite et puis il se pose devant toi quand ils ont plus de temps de jeu, parce que c'est limité quand même, il se pose à côté et ils disent « Papa, je m'ennuie,
je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je m'ennuie ». Voilà. Et puis quand tu dis, bah, lis un livre, mais j'ai déjà tout lu.
Ça c'est classique.
Lis Internet, mais j'ai lu tout Internet.
j'ai fini tout Internet.
C'est ça. Mais en fait, ce qu'il faut leur répondre, et on va vous allez voir qu'on est dans le thème, hein, parce que le rapport enfant et écran, on est un petit peu sur cette ligne, le rapport dont on va parler tout à l'heure, mais vous leur dites pas, mais enfin, quand j'avais ton âge, je jouais avec deux bouts de bois et un élastique.
Si, je leur ai déjà dit. Je dis, mais allez dans le jardin, on a un grand jardin. Moi, à votre âge, je faisais des cabanes dans les arbres et tout. Là, vous faites rien, vous allez jamais dehors. Et puis après, il y a maman qui arrive qui dit, ouais, mais il y a des tiques, il faut pas qu'ils y aillent. Tu vois, donc on va jamais s'en sortir, quoi.
Dehors mais est dangereux.
Est-ce seulement vrai, Corben, toi, le chef de l'Internet, j'ai du mal à imaginer que tu allais faire des cabanes. Ou alors, est-ce que tu mentirais à tes enfants pour t'en débarrasser ?
Non, moi je me souviens que j'ai que deux souvenirs de mon enfance. Mmh. C'est les petites cabanes que je faisais dans le jardin quand j'étais petit. Mes 8 heures passées devant le club Dorothée dans la journée, quoi. Donc je ne sais pas exactement comment tout ça s'intercalait, mais je me souviens que voilà.
Peut-être que tu avais la télé dans la cabane, mais tu t'en souviens plus.
c'est possible. Moi, mon problème, c'est que, alors vous le savez, ma fille est pas a des soucis de santé, donc elle est à la maison depuis des mois. Et là, en plus, ma femme est en vadrouille. Et donc, elle a besoin d'être rassurée, tout ça. Mais à chaque seconde que Dieu fait dans la journée, c'est « Papa, je veux jouer avec toi !» Je lui dis « Mais enfin, ma chérie, va faire, là, il y a tu peux dessiner, tu peux jouer avec les voitures. Mais je veux jouer avec toi !» Ok, bon, alors on joue une heure. Voilà. Ok, maintenant, mon enfant adoré, je dois aller travailler. « Mais je veux jouer avec toi !» Bon, ma chérie, je dois aller aux toilettes. « Mais je veux être avec toi !» Ok, au bout de trois jours, on peut plus. Et du coup, on les met devant des écrans. C'est ça la solution. 8 heures par jour, comme Club Dorothée. Bon, elle a 3 ans, c'est peut-être un petit peu. Mais si, attendez, vous allez voir, à partir de 3 ans, les écrans sont autorisés selon les recommandations du gouvernement. Donc, bon, on en parle dans un petit instant. Merci beaucoup à Cédric et Corben d'être avec moi. Je voudrais remercier également les gens qui ont rejoint le Patreon Intuit 3000. Est-ce que c'est un fan du logiciel de comptabilité ? C'est ça, hein ? Intuit, c'est de la compta, je crois. Jean-Noël Faure, Amael, Mip Mip, Cyril et les producteurs de cet épisode, WakaTP et SSI78. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur Patreon et de nous permettre d'avoir des abonnements à Netflix pour avoir de payer les abonnements à Netflix pour avoir des trucs à faire regarder aux enfants. Je dis Netflix, en fait, ils sont plus sur Apple TV+. Apple TV+, il y a des trucs pas mal. Hein. Si vous avez jamais vu Au Paisible, c'est hyper paisible, c'est calme, c'est des trucs bien écrits. Pas mal du tout, Au Paisible. Bon, bref.
Ça. Et ça va pour les enfants ?
Bah oui, non, mais c'est fait pour les enfants. C'est en fait trois enfants, bon, c'est des Américains, mais ils ont un voisin qui est un gros panda, qui est hyper calme et qui leur raconte des histoires pour pallier, enfin, pour qu'ils comprennent comment résoudre les problèmes qu'ils ont dans la vie, tu sais. Et les trois enfants ont trois âges différents, sont, donc c'est différents types de problèmes, ça s'adresse à tout le monde. C'est hyper bien fait et c'est très calme.
Ça, c'est pour les tout petits, là, parce que moi, je leur montre ça, ils me jettent des babouches. Hein.
Ah oui, alors bon, toi, t'es plutôt à l'époque Dragon Ball ou plutôt, je sais pas.
Fortnite.
One Piece. C'est pour leur montrer One Piece, ouais. Ouais. Ça va les occuper, il y a assez d'épisodes, non?
Oui, c'est ça. One Piece, ça fait quoi? Il y a un millier d'épisodes, ça devrait aller quand même.
Ouais.
Ça dans l'après-midi. Ouais. Bon, écoutez, on va en reparler, justement, on va en reparler. Et je vais donc lancer les trois news importantes de la semaine. Mais avant ça, j'ai un erratum à faire. Enfin, un demi-erratum. Qu'est-ce que c'est qu'un demi-erratum? Est-ce que c'est Patrick qui est de mauvaise foi? Patrick qui veut pas admettre qu'il a eu tort? Non, je fais parfois des erratums, ça m'arrive. Quand je me trompe, je l'admets. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai parlé de Max Schrems, vous savez, qui est en bataille constante contre les géants de la tech, et j'ai dit, et il est australien. Évidemment que je sais qu'il est autrichien. Vous avez été plusieurs à me dire, hé, Schrems, il est autrichien, hein, pas australien. Oui, mais ma langue a fourché, vous voyez. C'est pas que je pensais que depuis l'Autriche, depuis l'Australie, vous voyez, c'est compliqué. Depuis l'Australie, il allait faire des demandes légales à l'Union européenne, tout ça. L'Australie n'est dans l'Union européenne, enfin, n'est dans l'Europe que à l'Eurovision. Et l'UE, c'est pas l'Eurovision. Hein. Ce sont deux entités séparées, malgré la qualité des deux.
Parce que c'est le Commonwealth.
C'est le Commonwealth donc, d'Europe, c'est ça.
Et en anglais, Austrian et Australian, c'est vrai que ça ressemble
à ouais. C'est trop proche. Donc oui, Max Schrems est évidemment autrichien et pas australien. Donc, mea culpa.
Il y a un indice dans son nom quand même, hein, mais bon.
Il y a un tout petit peu. C'est pour ça que je dis, c'est pas... Quand je le trompe, je l'admets. Là, c'était un fourchage de langue. Donc, on va se lancer dans les news importantes de la semaine. Et la première... La première news importante de la semaine, il y a eu un rapport d'experts qui a été remis au gouvernement. Et ce rapport d'experts s'appelle « Enfants et écrans » et il traite de la manière dont on pourrait endiguer la terrible calamité qui s'abat sur nos chers enfants sous la forme d'écrans et de contenus internetiens qui sont déversés dans leurs yeux et leurs oreilles à longueur de journée. Et le rapport a été beaucoup, beaucoup commenté sur Internet. Le rapport, ou peut-être ses grandes lignes les plus faciles à commenter, les plus faciles à rapporter. Je vais faire une chose, une fois n'est pas coutume, je vais vous laisser la parole en tout début de sujet. Le rapport, enfin les éléments les plus commentés de ce rapport sont les interdictions qui ont été énoncées, comme par exemple les recommandations de n'avoir pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone avant 11 ans, pas de téléphone, pas de smartphone avant 11 ans, et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Et sur Twitter et les autres réseaux sociaux, justement, ça a donné lieu à énormément de commentaires. Je suis curieux de savoir, Cédric et Corben, quelles sont vos réactions à ce rapport d'experts qui, rappelons-le, n'est pas encore une loi du tout, hein, c'est simplement des recommandations faites par un comité au gouvernement qui verra comment il l'implémente, s'il l'implémente dans une loi à venir. Corben, je triche un petit peu parce que j'ai vu tes réactions sur Twitter, mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce rapport et de ces recommandations ?
Bah, je trouve qu'il cible mal parce qu'en fait, il cible les écrans. Principalement, mais les écrans c'est large quoi, tu vois, c'est pas. Enfin, c'est... Moi, je pense que le vrai problème c'est surtout les réseaux sociaux quoi, et l'absence de contrôle parce que c'est vrai que quand tu laisses des enfants de 3 ans devant des écrans devant YouTube toute la journée sans vérifier ce qu'ils regardent, là je suis d'accord, tu vois, ça va les rendre complètement abrutis. Mais les empêcher d'avoir Internet avant je sais pas quel âge. Je sais plus ce qu'ils avaient donné comme recommandation hein, pour Internet, mais avant quoi, avant 13 ans, 15 ans, je sais plus. Je trouve ça un peu naze, quoi. Enfin, je veux dire, ça va faire des gros nuls en technologie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas adapté, quoi. Donc je pense que comme c'est un manque de finesse, en fait.
Comme tu l'as bien compris et le recommande le rapport, le fait de ne pas avoir Internet avant 13 ans n'est pas acceptable pour toi. On va voir dans un instant ce que je pense de ça. Merci d'illustrer mon propos, Corben, par avance. On va voir que ça va être intéressant à discuter. Cédric, okay. qu'est-ce que tu penses? Je t'ai tendu un petit piège, Corben, mais c'est bien, t'es tombé.
Ouais.
Cédric.
Pour moi, c'est même pas les réseaux sociaux. Le problème, en fait, c'est les contenus. C'est le type de contenu accessible. Le problème, c'est que ça va à l'encontre du fait que je suis pour que tout le monde puisse produire du contenu sur le web, et j'en suis moi-même un producteur à mes heures perdues. Et je trouve dommage de limiter le truc, mais en fait, c'est plutôt... ils sont pas en capacité de faire le tri entre ce qui est bon pour eux et ce qui l'est pas, dans ce qu'ils regardent. Et donc, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et je comprends le sens du texte de loi qui est pas tellement, comme tu dis, enfin du texte de loi, de la proposition, enfin du rapport. Comme tu dis, en fait, ça cible beaucoup les écrans, comme si l'écran lui-même allait provoquer une maladie grave, genre vous allez porter des lunettes comme vous deux. Et du coup, il faut faire très attention.
Bah, clairement, c'est le mauvais exemple parce que Corben et moi, on a dû passer énormément de temps devant les écrans.
Dorothée m'a flingué les yeux.
Mais complètement.
Mais moi aussi,
complètement,
j'ai passé beaucoup de temps devant les écrans, mais j'ai pas de lunettes. Mais ça ne saurait tarder, l'âge. Mais sinon, la problématique en fait de la loi anti-écran, en fait, de ce rapport anti-écran. C'est que justement, comme tu dis, Corben, il cible l'appareil en lui-même et finalement peu ce qui relève de l'éducation, c'est-à-dire le contenu. Et tu disais tout à l'heure, oui, le problème, c'est les réseaux sociaux. Mais en fait, les réseaux sociaux, si demain, tu as un réseau social uniquement de gens qui partagent des exercices de maths, bah, tu ne vas pas interdire ce type de
contenu.
Oui,
quand je disais réseaux sociaux...
Oui, je comprends tout à fait. C'est la bêtise
TikTok, Twitter...
C'est la bêtise qu'on peut y trouver. Même TikTok, on peut y trouver des choses éventuellement intelligentes. Mais on est vraiment sur cette bêtise... crasse qui passe par là, et puis aussi le fait de ne pas faire le tri entre le vrai et le faux. Typiquement, tout ce qui est fake news, tout ce qui est deepfake, etc., surtout avec l'IA aujourd'hui, et ainsi de suite. Hein.
Et puis des adultes mal intentionnés aussi.
Des adultes mal intentionnés, parce qu'en fait, ça ne s'en rendent pas compte. Alors moi, assez tôt, quand j'ai autorisé.
Quand tu dis
qu'ils ne
s'en rendent pas compte, tu parles des enfants. Hein.
Oui, les enfants, oui. Mmh. Assez tôt, quand j'ai commencé à autoriser mon fils et ma fille, bon, qui sont plus âgés, 13 et 11 ans, à jouer en réseau, typiquement sur Roblox ou ce genre de trucs, ou même Minecraft. Au début, je désactivais le chat. Ils avaient interdiction d'utiliser un micro et une caméra. Ils ont toujours interdiction d'utiliser une caméra, d'ailleurs. Le micro, ils peuvent éventuellement sur des contacts qui sont sur le volet, mais ça demande un travail de modération des parents qui est colossal. Et je peux comprendre que par dépit, on décide de laisser tomber. Mais le problème, c'est qu'en fait, on confie la garde de nos enfants sur leur temps libre à potentiellement des personnes mal intentionnées, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai l'impression qu'au final, si sur la forme de ce qui a été balancé sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de réactions un petit peu à l'emporte-pièce, très critiques pour ne pas dire trollesques, j'ai l'impression que sur le fond, on n'est pas si loin.
On est d'accord sur le problème de fond.
Ouais, mais alors, j'irais même jusqu'à dire que votre analyse est peut-être plus proche de ce que préconise le rapport que ce que vous pensez. Je vais détailler. D'abord, quand on a vu sur les réactions sur Internet, on a quand même vu énormément de gens qui, je caricature un tout petit peu, mais qui s'inscrivent dans le modèle de la réaction sur Twitter, qui disent « Oh, mais enfin, c'est n'importe quoi !» Avec le 3 ans, 11 ans, 15 ans, on a vu beaucoup de gens qui disent « Oh, moi, à 3 ans, je codais déjà. À 11 ans, j'avais un ordinateur et je faisais des trucs. »
Moi, je l'ai fait ça, je peux dire. Moi, je l'ai fait ça, mais c'est pas c'est pas en opposition à ce qui avait été dit, quoi. C'est juste pour montrer que l'usage, en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est pas l'écran qui est mauvais, c'est l'usage, quoi. Et moi, quand je vois mon grand... Alors, le petit, on peut discuter. Il joue à Fortnite, c'est vrai que c'est pas ouf, quoi. Mais le grand, là, il a 13 ans. Tu le prives d'Internet, entre guillemets, bah, il peut plus faire ses trucs, quoi.
Mais alors, c'est ça.
Il est pas en train de faire n'importe quoi.
C'est ça qui est intéressant, quand même. Parce que beaucoup de gens ont réagi sur ces trois phrases du texte. D'ailleurs, je voudrais partager avec vous un tweet de Chrono Triggered qui résume le type de réaction qu'on a vu, qui dit « Moi, à 3 ans, je codais avec un clavier uniquement sur une Neo Geo modée qui me permettait de lancer des missiles intercontinentaux. À 11 ans, je suis parti sur Vénus et j'ai vu des reptiliens. À 15 ans, j'ai créé le premier clone hybride humain-chat. Donc, arrêtez de nous emmerder. » Tu vois, c'est un petit peu ce genre de réaction qu'on a vu, je trouve. Et en fait, ce que dit effectivement ce rapport, même, je vais parler un petit peu plus de ce qu'il y a d'autre que ces trois interdictions, mais même sur ces trois interdictions spécifiques, je trouve que la manière dont les gens ont réagi est typique de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire on voit un truc qu'on comprend mal, qu'on ne cherche pas, sur lequel on ne cherche pas à aller plus loin, et on réagit de manière négative, très rapidement, sans y réfléchir plus. Parce que pas d'écran avant 3 ans. C'est d'une part, je pense que vous êtes tous relativement d'accord pour dire que l'idéal, c'est sans doute ça. Moi-même, j'ai essayé de le faire. Bon, j'avoue qu'il y a des moments où même un petit peu avant 3 ans, tu te laisses peut-être aller à laisser ton enfant devant un écran un petit peu de temps en temps. Mais pas d'écran avant 3 ans, c'est déjà la recommandation des fameuses balises 3, 6, 9, 12, etc., qui font les recommandations par rapport aux écrans. Bon, pas d'écran avant 3 ans, c'est la recommandation depuis très longtemps. Pas de smartphone avant 11 ans. Qu'est-ce que c'est, pas de smartphone avant 11 ans ? Ça ne veut pas dire pas d'Internet, pas d'ordinateur, pas d'iPad, pas de console. Non, pas de smartphone avant 11 ans, ça veut dire ne pas offrir, donner un smartphone à son enfant de 11 ans, enfin avant qu'il n'ait 11 ans, de manière à ce qu'on n'ait pas un enfant de moins de 11 ans qui ait un accès autonome quasiment illimité, parce que la plupart des gens ne vont pas aller faire le contrôle parental sur toutes les apps, etc., qu'il ne soit pas livré à lui-même sur les différents réseaux sociaux ou apps qu'il va installer avant 11 ans. Ça ne veut pas dire pas d'accès à l'informatique, pas accès à Internet, comme tu le relevais, Corben, ouais. Internet, c'est hyper important pour les jeunes et pour l'apprentissage, etc. Donc, c'est pas d'informatique avant 11 ans, c'est pas de smartphone individuel avant 11 ans. Ordinateur à la maison, iPad, tout ce que vous voulez, pourquoi pas. C'est juste qu'il ne doit pas avoir un accès personnel illimité à un smartphone, à lui, à son appareil, à Internet avant 11 ans. Donc c'est très différent en fait ce que ça veut dire. L'autre chose, le dernier, c'est seulement des réseaux sociaux éthiques à 15 ans. Genre Blue Sky et Mastodon. En fait, l'idée, c'est d'essayer de limiter l'accès au réseau à des filements infinis, aux trucs qui vont créer de l'engagement de manière peut-être pas hyper éthique, etc., etc. Bon, ça, on pourrait peut-être en discuter à partir de 15 ans. Ils recommandent l'accès à Internet, donc avec un smartphone, avec uniquement des réseaux sociaux spécifiques, donc pas Twitter et Instagram, en gros, ou TikTok. En gros, c'est ce qu'ils disent. Ça, on pourra en débattre. À 15 ans, c'est peut-être un petit peu, difficile à mettre en place. Et rappelons-le, ça ne sont que des recommandations. Ce n'est pas la loi, c'est la recommandation du panel d'experts qui recommande aussi, qui dit qu'il faudrait imposer aux réseaux sociaux pour des enfants d'un certain âge de ne pas avoir les scrolls infinis. Donc, d'aller changer la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent. Bon, ça peut-être qu'on pourra pas. C'est vrai que ça sera compliqué, mais ce qu'ils disent, c'est qu'il faut limiter les mécaniques addictogènes de ces réseaux. Bon courage pour faire plier Zuck, comme je le dis parfois, mais qui sait, hein, on a déjà fait plier, on le verra tout à l'heure, des grosses sociétés sur d'autres domaines, et on pensait que c'était pas possible, et finalement, ça a été possible. Et puis, surtout, il y a une autre chose, c'est que le rapport ne se limite pas à ces interdictions. Alors oui, tout le monde a parlé de ces interdictions, à la fois les experts du rapport, les personnalités politiques, les médias, les gens qui ont réagi. Oui, tout le monde s'est concentré là-dessus parce que c'est facile et ça fait parler et c'est quand même le truc le plus symbolique.
C'est un peu aussi de se souvenir de ce qu'on faisait à ces âges-là, tu vois.
Bien évidemment,
j'ai bien aimé en fait moi lire les trucs des gens en fait, pas forcément en réaction au rapport, mais tu vois dire ah bah tiens lui il a fait ça, il a commencé comme ça quoi.
C'est moi, non mais bien, bien sûr.
Ce petit buzz en fait sur ce petit effet de mode quoi.
C'est intéressant aussi, mais sur cette histoire de smartphone avant 11 ans, ce qui me paraît le plus intéressant sur les réactions qu'on a vues, c'est que tout le monde a voulu comprendre pas d'Internet et pas d'informatique avant 11 ans. Alors que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas de smartphone personnel à l'enfant avant 11 ans. Mais je termine sur une chose, c'est qu'il y a dans le rapport, on peut trouver le texte, je vous le mettrai dans la newsletter, le texte, et sur le groupe WhatsApp également, il y a dans le rapport le détail de 6 axes qui sont proposés pour améliorer la situation des enfants dans le, par rapport aux écrans. Et sur ces 6 axes, il y en a 2 qui ont à voir avec l'éducation. Il y en a un qui, où ils disent qu'il faut sérieusement former les jeunes à leur autonomie sur les écrans, leur donner le pouvoir d'agir et de redonner toute leur place aux enfants et aux jeunes dans la vie collective. Donc, former les jeunes, et ils précisent à l'école, depuis l'école, au collège et au lycée. Donc, cet aspect formation que tout le monde a oublié, ou plutôt les gens, j'ai vu beaucoup de réactions qui disaient « Ah ben non, enfin, que des interdictions, il n'y a pas de formation. » Bah si, le rapport, c'est à la page 4, à la page 5, il y a formation. Et le cinquième axe, c'est former les adultes qui sont responsables des enfants aussi, c'est-à-dire les parents, les professeurs, etc. Donc, les responsables d'associations. Donc, avoir des dispositifs de formation pour les adultes pour qu'ils comprennent mieux. Donc, il y a ça aussi. Et c'est un tiers du rapport. Donc, c'est pas que c'est absent. Donc, ensuite, je vais vous avouer un truc, je ne suis pas allé lire le rapport entier de 150 pages, donc peut-être que le rapport est complètement pété. Mais ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est que, enfin, à mon sens, ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est que les réactions que j'ai lues, en tout cas, ou la manière dont je les perçois, illustrent parfaitement les raisons pour lesquelles il faut faire attention à la manière dont on livre Internet et les écrans aux enfants. Parce qu'on a été... Peut-être que, justement, les gens qui ont réagi à ces quelques tweets, et même les gens qui ont tweeté ces interdictions seulement, devraient avoir suivi des formations sur l'usage des réseaux sociaux, sur la manière dont ils nous manipulent, sur la manière dont fonctionnent les algorithmes qui privilégient l'engagement, etc. Parce que on a parfaitement illustré pourquoi c'est pas si top d'avoir des enfants livrés à eux-mêmes sur Internet à ce moment-là, à ces âges-là. Et peut-être que... moi, il y a un nouveau précepte du patrixme que j'ai énoncé en lisant tout ça. Je me suis dit, il faut vraiment, à chaque fois qu'on va tweeter un truc, il faut se demander, est-ce que je sais de quoi je parle ? Est-ce que je sais de quoi je parle ? Quand je vais répondre à un truc, j'ai lu 3 lignes sur un rapport. Est-ce que je sais de quoi je parle en répondant à ce rapport ? J'ai lu 3 lignes. Le rapport, il fait 150 pages. Bon, si je ne sais pas, peut-être, je ne dis pas qu'il ne faut pas réagir, mais peut-être qu'il faut réagir de manière moins définitive et moins péremptoire, comme on l'a vu sur les réactions des réseaux sociaux. Maintenant, je tempère tout ça en disant, ça se trouve, le rapport, il est tout pourri, ça se trouve, les lois qui vont en découler vont être lamentables, ça se trouve, oui, peut-être.
Moi, ce que je ne comprends pas, tu parles de lois, mais je pensais que c'était des recommandations.
Non, mais c'est ce que je dis, c'est que si, peut-être que les lois qui vont découler de ces recommandations, parce que, a priori, le gouvernement a demandé un rapport pour en faire des lois ensuite, et il y a plein de trucs, d'accord. Je ne sais pas si c'est applicable, je ne sais pas si
que
ça
moi, les lois, enfin, je ne vois pas comment ils veulent faire, quoi. Enfin, tu vois, comment tu peux dire à des parents, ouais. Laisse pas un téléphone à un gosse de 10 ans, enfin, tu vois, comment tu contrôles ça ? Tu leur mets une prune si tu vois le gosse dans la rue, enfin, c'est...
Non, mais il y a plein de trucs qui sont clairement pas implémentables, mais il y a des choses qui sont implémentables. Par exemple, l'idée de coordonner au niveau européen le fonctionnement des réseaux sociaux pour certaines catégories d'âge, bah, peut-être que c'est possible. Je sais pas si je sais même pas si c'est des bonnes idées, tout ça. Ça se trouve, on est en train de paniquer comme les gens paniquaient devant Dorothée, Donjons et Dragons, et disaient « Ah, Donjons et Dragons, c'est des rituels satanistes ». Bon, c'était plus aux États-Unis, mais quand même. Bah, ça se trouve, les réseaux sociaux, c'est pas si grave que ça. Mais c'est quand même les experts du sujet qui disent bah, « Les réseaux sociaux, c'est pas top ». Alors, pas forcément pour la santé mentale des enfants, comme on l'a beaucoup lu. Les rapports scientifiques, comme j'en parlais il y a quelques semaines, n'ont pas établi un lien de corrélation entre les deux. Mais par contre, il est certain que les enfants passent beaucoup de temps devant. Est-ce qu'on n'est pas... Enfin, il y avait une époque aussi où les enfants avaient le droit de fumer ou de boire, par exemple. Est-ce qu'on n'est peut-être pas là, à ce niveau-là ? On n'est peut-être pas au niveau de Donjons et Dragons, c'est l'invocation de Satan. Est-ce qu'on est entre les deux ? J'en sais rien. Tout ça... Moi, j'ai le courage, messieurs, dames, de dire que je ne sais peut-être pas. Mais...
Les dessins animés qu'on regardait quand on était petits, c'était ça, en fait. C'était « ça va pervertir la jeunesse », on est tous... Enfin, tu vois, c'était ça. Donc, après, là, il n'y a pas de corrélation, comme tu disais, entre la santé mentale et le temps passé sur les écrans. Voilà, après, bon, je pense que pour des enfants petits, ça doit être un peu problématique quand même, parce que ça... Même nous, on le voit à notre niveau, trop de smartphones, trop de réseaux sociaux, on flingue notre capacité d'attention, on flingue plein de trucs, quoi. Donc, ça a un effet aussi sur les adultes. Donc, bon, c'est réel, quoi. Mais après, est-ce que c'est pas trop surréagir ?
Cédric, est-ce qu'on surréagit sur les... Enfin, à vrai dire, est-ce qu'on sait nous-mêmes si on surréagit ? Parce que sur l'alcool... D'ailleurs, on nous dit dans la chatroom un truc que j'aime beaucoup et que je dis souvent, la vote d'alcool est interdite au moins de 18 ans, c'est aussi difficile à appliquer. Est-ce que c'est une raison pour ne pas légiférer ? Souvent, on dit, oh, bah, cette loi, elle est inapplicable, vaut mieux pas la faire. Il y a plein de lois qui sont inapplicables à 100%. La ceinture de sécurité, tu peux pas l'appliquer à 100%. Mais bon, tu peux essayer de... Ensuite... Pas d'écran avant 3 ans, évidemment, ça ne va pas devenir une loi. Peut-être qu'il va y avoir des recommandations, des sites d'éducation
oui,
qui
alors,
vont dire tenez, pas d'écran avant 3 ans.
Non, mais je vais vous donner, ouais, mais je vais vous donner un
peut-être
exemple.
Peut-être interdire les smartphones encore plus à l'école. Pardon, Cédric.
Ouais, mais regarde, le pas d'écran avant 3 ans, ce truc-là aussi découle du fait qu'il existe, et on ne peut pas le nier, même si c'est marginal, mais des nounous qui mettent les enfants avant 3 ans devant des écrans pendant que, je sais pas, elles font à manger ou parce qu'elles elles en ont assez, elles ont besoin de souffler ou je ne sais quoi, ou voilà. Et en fait,
ouais. Les il existe des parents aussi envie, hein, qui font ça.
Non, mais je dis, oui, mais les parents, c'est leur responsabilité de l'éducation de leurs propres enfants.
Ouais.
Là, si toi, justement, tu fais cet effort-là, mais tu l'amènes chez la nounou et en fait, il passe 8 heures dans la journée devant un écran. Eh ben en fait, la loi va servir aussi à cadrer ça, c'est-à-dire que tu pourras, toi, dire ben, « moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont c'est fait » et tu pourras, je ne sais pas, ça pourrait aider à la rupture d'un contrat ou j'en sais rien, en fait, tu vois.
Ouais,
faut voir tous les pans du truc. Et typiquement, l'histoire des smartphones, ça vient aussi, pas que dans le cadre de l'usage des réseaux sociaux, par exemple, avant 11 ans, ça vient aussi dans le cadre du harcèlement, ça vient dans tout ce cadre-là, enfin, en gros... Le harcèlement à l'école existait avant les smartphones. Le problème, c'est que le harcèlement à l'école avec les smartphones vous suit jusqu'à la maison. C'est ça la nuance, en fait. On n'est jamais libre, c'est-à-dire qu'on est harcelé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, cet encadrement des écrans, c'est plutôt un encadrement effectivement des usages, mais il y a peut-être des lieux qui mériteraient d'être sanctuarisés, où le smartphone n'a pas sa place. Typiquement, à l'école, on est là pour apprendre. Bah, peut-être qu'effectivement, au collège... avoir son smartphone en cours ou dans la cour de récré, c'est pas quelque chose d'acceptable. Parce qu'en fait, ça peut favoriser justement ce type de comportement, de harcèlement et tout ce qu'on veut. Je suis contre le tout répressif. Je suis plus pour qu'on éduque les parents et les usages, etc. Mais peut-être que, comme tout le monde ne va pas appliquer la même chose, ne va pas respecter le même cadre, etc., on va se retrouver face à des problématiques... des problématiques de certains seront harcelés et d'autres non, etc. Enfin bref, c'est honnêtement, comme tu le disais Patrick, c'est impossible de légiférer, d'avoir un résultat à 100%, quelque chose d'applicable à 100%, etc. Ça n'est pas possible. Par contre, on pourrait très largement, vous, moi, tout le monde ici autour de la table virtuelle immense du podcast du Rendez-vous Tech, se dire, ouais mais en même temps le gouvernement ne fait rien. Face à un vrai problème, comment est-ce qu'on règle le problème du harcèlement à l'école ? Ok, l'éducation, on peut en reparler pendant des heures, mais il y a des outils facilitateurs ou catalyseurs. Est-ce que justement, on meurt si on n'a pas son smartphone pendant 8 heures de cours à l'école ? Est-ce que vraiment
alors,
c'est ce
les smartphones sont déjà interdits au collège,
oui, mais,
on le rappelle dans la chatroom.
Ouais,
et entre parenthèses, ouais, peut-être que ce n'est pas aussi sévère qu'on peut l'imaginer. Et je rappelle aussi que cette mesure a donné lieu à quand même des cris d'orfraie quand elle a été annoncée et puis réannoncée. Parce que justement, moi aujourd'hui, je lis l'idée vraiment pour un enfant de 11 ans d'avoir un smartphone ou pas, d'avoir un téléphone pour être contacté, ok, ou peut-être une montre ou ce genre de choses. Mais avoir un smartphone et le laisser, parce que tous les parents ne vont pas limiter les apps qui sont sur leur smartphone, et puis s'ils le veulent, c'est peut-être leur responsabilité, mais que la ligne directrice, ça soit un enfant avant 11 ans, donc 9, 10 ans, ne devrait pas avoir un smartphone, ça me paraît pas. On peut en discuter, hein. Je dis pas c'est totalement ce qu'il faut faire. Il faut interdire, il faut pourchasser les gens qui donnent des smartphones. Alors, c'est pas ça. Mm-hmm. Mais par contre, l'idée que avant 11 ans, un enfant qui a accès aux réseaux sociaux, au contenu d'internet, c'est pas forcément top. Quand il est tout seul, encore une fois, hein, il peut avoir l'accès à l'ordinateur à la maison, on peut jouer en ligne sur les consoles, sur les iPads, tout ce que vous voulez. Mais qu'il ait un smartphone quand il est tout seul, dans son lit, à l'école, dans la rue, machin, ça ne me paraît pas hallucinant de dire bah non, c'est pas top avant 11 ans, quoi. D'avoir accès à tout Internet sans limitation.
Bon. Mais en fait, ça se rappelle cette pub australienne où on voyait deux acteurs porno qui sonnaient à la porte d'une maison à poil et la mère ouvre en disant mais qu'est-ce que c'est ce truc, et il dit ah ben c'est votre fils qui est en train de regarder un site pornographique machin. Et en gros ça revient à les faire venir à la maison c'était pour choquer évidemment, mais
faut être honnête, les enfants ils trouveront des moyens de regarder des contenus porno, d'aller tricher, de faire des
bien
trucs
sûr,
mais c'est sûr, différent comme pour l'alcool, comme pour la ceinture, comme pour tout. C'est différent quand tu dis bah vas-y c'est open bar et quand faut aller essayer de...
Cette loi, cette proposition de loi va peut-être imposer...
On n'est même pas à la proposition de loi, on est aux recommandations d'experts.
Cette recommandation va peut-être pousser les autorités à demander aux constructeurs de smartphones que le temps d'écran soit activé par défaut, que le contrôle parental soit activé par défaut lorsqu'on crée un compte, par exemple, et qu'on indique l'âge de l'enfant. Alors évidemment, on peut tricher et dire qu'il a 18 ans, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais là, après, ça devient la responsabilité des parents. Mais typiquement, moi, j'ai passé du temps à configurer, et ça n'a pas été parfait d'ailleurs, parce qu'il est passé au travers une fois, le temps d'écran sur l'iPod Touch de mon fils. Donc vous voyez, c'est même pas un téléphone, mais quand même. Là, il vient d'avoir son premier iPhone. Il a 13 ans, il se l'est payé, il a acheté son premier iPhone 12 reconditionné, machin, etc. Et au début, il m'a dit, c'est le mien, je me le suis payé. Ouais, ok, je suis ton père. Allez, hop, donne-moi ton truc. Temps d'écran, machin, Discord interdit, tu vois, enfin, ça a été... Parce que je lui ai dit, ok, tu regardes le PEGI, c'est pour quel âge Discord? C'était 17+, je crois, ou un truc comme ça.
Ouais.
Je lui ai dit, t'as quel âge? 13 ans. Eh ben non. Hop, allez, bloqué, et ainsi de suite.
Mais,
tu vois.
Non, mais ça illustre bien, c'est dur, hein, parce que Discord, c'est un lieu de communication pour des trucs complètement normaux, entre guillemets.
Alors du coup, voilà.
Mais il y a aussi...
Voilà, ah ben attends, je l'ai chopé une fois justement sur Discord, sur des mecs qui partageaient des gifs pornographiques, quoi, tu vois, sur un chan. Mais comment tu fais ça? Donc du coup, je lui ai interdit Discord pendant plusieurs semaines. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est maintenant, il a droit à Discord uniquement le week-end, dans des temps en journée, quand on est là. Donc en fait, c'est simple, s'il veut jouer aux jeux vidéo avec ses potes, etc., il joue dans mon bureau, et là, du coup, il y a accès, j'entends, je vois ce qu'il fait, etc.
Vous êtes tous les deux des parents parfaits, donc...
dis que c'est très dur, c'est très très dur.
Non, bien sûr, mais je veux dire, justement, je plaisante un petit peu, mais sûr, nous, on connaît le fonctionnement de ces choses-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne vont pas prendre le temps, qui n'ont pas le temps... l'idée que tu évoquais d'imposer aux constructeurs d'avoir des modes, si l'utilisateur a tel ou tel âge, le téléphone est configuré par défaut de telle manière qu'il soit adapté à ses usages, ça ne me paraît pas être une mauvaise idée de législation, par exemple, effectivement, quelque chose comme ça. Puis on évoquait dans la chatroom l'idée que y a des enfants qui ont besoin de téléphone pour communiquer avec leurs parents et de choses comme ça. Encore une fois, pas de smartphone avant 11 ans. La recommandation, parce que ce n'est qu'une recommandation, dit vous pouvez avoir des téléphones qui n'ont pas accès à Internet. Donc on peut communiquer pour des questions de sécurité.
Moi, il avait un Nokia, un Nokia à touche, quoi. Il utilisait même le T9, donc il a découvert la rédaction des SMS au T9.
Ouais,
je peux te dire que c'est là, what? Mes copains me disent que je mets du temps à répondre. Ouais, tu m'étonnes.
C'est sûr. Mais oui, mais ça aussi, c'est compliqué, parce que tu peux être exclu des groupes de potes. Et je veux être clair, je laisse complètement la porte ouverte à l'idée qu'il y a plein de cas et de raisons pour lesquelles tout ça, ce n'est pas des bonnes idées. Et ne serait-ce que le fait que le fait de s'habituer aux réseaux sociaux, au numérique, le fait d'être confronté aux difficultés des réseaux sociaux, peut-être même aux réalités de la socialisation entre enfants à travers les réseaux sociaux, c'est peut-être important pour faire des adultes qui soient bien formés et qui ne commencent pas à apprendre ces choses-là à 18 ans. C'est tout à fait possible, mais je voulais, vous l'avez compris, mon intention était aussi de baisser d'un ton les réactions outrées dont on a l'habitude sur les réseaux sociaux. Parce que
mais prenez-le comme plutôt le gouvernement prépare son parapluie en cas d'action en justice contre leur inactivité face à ces problématiques-là.
Ils l'ont, Ouais, ils l'ont un peu monté. Peut-être que c'est justifié, mais c'est un petit peu sorti de nulle part du fait du gouvernement aussi.
Voilà, il y a beaucoup de communication autour de ça. C'est dire, attendez, regardez, on protège vos enfants contre les grands méchants GAFAM, machin, blablabla.
Ouais, c'est pas tant contre les grands méchants GAFAM. C'est
non, 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 mais les réseaux sociaux, en fait, ouais. Machin, les smartphones, les machins, vous inquiétez pas, on est là. Et, ouais. Et en gros, on pourra pas les taxer d'inaction.
Voilà. Bah, d'action encore, il n'y a rien eu. Hein. Il y a eu un rapport.
Non, non, mais d'inaction, c'est-à-dire qu'il y a un rapport, ils s'y intéressent. Ils sont regardez, on est en train de travailler. Voilà.
Corben, tu conclus avant qu'on change de sujet.
Bah, que je dise, c'est très bien, moi je suis d'accord avec vous.
C'est d'accord avec nous, j'aime bien ce genre de conclusion.
Parfait.
Deuxième sujet, Apple recule encore une fois face à l'Union européenne. Vous vous souvenez que pour entrer dans le cadre du DMA, Apple avait implémenté tout un tas de changements qui permettaient aux développeurs de distribuer leurs applications en dehors de l'App Store et d'utiliser des systèmes de paiement qui n'étaient pas ceux d'Apple et donc d'éviter les 30% de commission d'Apple. Plein de choses étaient incluses dans ces changements, y compris le CTF, Core Technology Fee, qui imposait à n'importe quel développeur qui faisait installer des apps à payer 50 centimes annuellement par utilisateur de ces apps, au-delà d'un certain nombre d'apps, c'était 1 million, je crois. Et donc, n'importe quel billet d'installation des applications donnait lieu au CTF. Et donc, même les applications gratuites, tout un tas d'applications qui étaient distribuées en dehors de l'App Store, eh ben, le développeur devait payer Apple, même s'il n'avait rien à voir avec leur modèle de distribution qu'est l'App Store. Alors, on peut débattre de c'est justifié ou pas cette histoire de Core Technology Fee. Il n'empêche que Apple est le constructeur et le développeur de cette plateforme qui permet aux développeurs tiers de faire de l'argent généralement. Donc bon, ça ne me paraît pas complètement injustifié l'idée d'avoir un autre moyen de monétisation. Ceci dit, le Core Technology Fee a quand même fait jaser parce que ça veut dire que n'importe quelle app, quel que soit son type, est soumise à un paiement. Et parfois, il y a des apps qui ne font pas du tout d'argent. Eh bien, face aux menaces de l'Union européenne, face aux plaintes des développeurs, Apple recule encore. Ce n'est pas la première fois qu'il recule sur ses règles pour s'adapter au DMA. Et ils annoncent que le Core Technology Fee ne s'appliquera pas aux applications gratuites. Enfin, aux applications qui ne génèrent pas de revenus. Ça veut dire que si vous avez une application qui ne génère pas de revenus, vous pourrez utiliser les téléphones d'Apple, les iPhones, les iPads, et ne pas payer Apple du tout. Alors, ça change énormément de choses pour l'écosystème des applications en Europe. On va penser avant tout, évidemment, aux apps gratuites, hein, tout simplement, les trucs qui sont faits par des passionnés, les trucs qui sont faits par les fans d'open source et de logiciels libres. Mais ça concerne aussi beaucoup d'autres types d'applications, des applications d'entreprise, des applications d'administration, des applications, j'en sais rien, de transport. Enfin, il y a énormément d'applications qui ne génèrent pas de revenus, mais qui sont hyper utiles pour les utilisateurs, qui ne pouvaient pas raisonnablement être déployées sous l'ancienne règle qui imposait de payer par utilisateur. Aujourd'hui, tout ça, ça va être possible. Et à mon sens, ça va permettre vraiment à l'écosystème d'applications européen de se développer de manière un petit peu différente de ce qu'on connaît dans le reste du monde qui est soumis uniquement aux règles d'Apple qui imposent ses 30% de commission sur tous les revenus. Parce que là, on peut installer des applications dans n'importe quel contexte. Alors évidemment, si vous avez une application qui ne génère pas de revenus, qui est distribuée par l'App Store, eh ben, il n'y a rien à payer à Apple non plus. Mais là, on peut le faire sur des apps sortières, sur tout simplement un site web qui va installer une app sur votre téléphone. Donc, ça rend possible le développement de cet écosystème différent en Europe. Ce changement spécifique rend tout ça possible. Et c'est intéressant de noter que les discussions compliquées entre l'Union européenne et Apple, les invectives, les insultes, mais c'est pas possible, mais ça peut pas marcher, mais ça ne sert à rien. Au final, j'ai l'impression que ça donne un résultat, un système qui tient plus ou moins la route. Hein. Est-ce qu'il était nécessaire ? Est-ce que ça va donner un avantage par rapport aux écosystèmes en dehors de l'Union européenne ? J'en sais rien encore, mais ce modèle, là, aujourd'hui, avec ce dernier changement, il me paraît viable. Il y a des App Store tiers sur iPad, sur iPhone. On peut installer des applications par où on veut. On n'a pas forcément besoin de payer beaucoup d'argent à Apple, si, enfin, d'argent du tout à Apple, si notre application ne génère pas d'argent. Et bien là, les dés sont jetés et puis on va voir ce que ça va donner pour l'écosystème en Europe. Enfin, c'est mon avis, hein. Ça se trouve, vous pensez... Enfin, je pense que c'est difficile de se dire que le fait que le core technology fee soit, disparaisse pour les applications gratuites, ça soit une mauvaise chose. Là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne chose, non ?
Ouais, ouais.
Ah oui, moi, je suis entièrement d'accord. Et en fait, je me suis dit quand même, ce CTF va poser un problème pour tous ceux qui font, on en parle dans le chat, mais tous ceux qui font des petits utilitaires, des petits trucs qui permettent de, je sais pas moi, des calculatrices scientifiques, des petits utilitaires qui t'aident, je sais pas moi, à faire de la statistique ou des trucs comme ça, qu'aujourd'hui, bah, t'étais souvent obligé de payer dans le store ou qui étaient potentiellement gratuits, mais ça a imposé aux développeurs d'adhérer aux licences Apple, etc. Enfin, bref, c'était...
Enfin, là, il faut quand même adhérer aux licences Apple, hein.
Oui, bien sûr, mais ce que je veux... Oui, mais ce que... Non, mais de devoir faire toute la validation du store, etc., qui parfois était un peu lourdingue. Typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà soumis des applications sur le store Apple. Moi, je le fais régulièrement pour des projets à moi ou pour des étudiants. Et... le nombre de captures d'écran que tu dois fournir dans tous les formats disponibles, plus les icônes dans je ne sais pas combien de formats, des descriptions dans je ne sais pas combien de langues, etc. C'est juste, entre guillemets, de l'administratif inutile pour une calculatrice, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire autant de trucs, d'avoir des bannières en telle résolution. Et en plus, elles sont fixes. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas la bonne, tu peux être retoqué pour ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop de texte dans le truc. Enfin,
alors, rappelons-le, les applications doivent tout de même être notarisées par Apple questions de sécurité, pas pour des questions de contenu.
Mais la
donc,
fiche
c'est ça
produit,
qui change.
Voilà, mais la fiche produit de l'App Store, si tu ne publies c'est pas sur l'App Store, ça reste... c'est pas, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, Ellinger, évidemment, présenter son app proprement, c'est essentiel. Mais Apple te l'impose sur son store, et ce qui est tout à fait logique, ils veulent que le truc soit présenté d'une certaine façon, bien catégorisé et tout, et ils ont raison. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Mais toi, tu es un dev indé, tu fais une calculatrice que tu veux juste partager avec tes potes et éventuellement des gens qui en ont besoin sur Internet parce qu'ils ont le même problème que toi. Tu n'as pas envie de faire tout ça parce que bah, tu es seul, tu es indépendant, solo, ouais. Tu n'as pas envie de faire ce truc-là.
Et bien aujourd'hui, design, tu pourrais effectivement...
Tu peux
simplement la mettre sur ton site web voilà. Le lien vers là pour l'installer et n'auras pas besoin de payer Apple pour ça à aucun moment si ton app reste gratuite. Donc ça, c'est possible aujourd'hui. Avant, ce n'était pas possible.
L'appli Corben, par exemple, si Corben veut lancer une appli de news à lui, qui ne soit pas monétisée, rien, machin, mais genre, je ne sais pas, on retrouve la vie de Corben dedans, eh ben, il peut la mettre en téléchargement sur son site. Et typiquement, il n'a peut-être pas envie de se taper, s'il est solo du ghetto, de se taper les mises à jour, les validations, etc., plus toute la validation de la fiche technique et tout. Ouais. Et Ellinger, je suis comme toi. Tu dis, en tant que designer, je comprends 100%, mais c'est mon métier. J'étais UX/UI, moi. Donc, si tu veux, mille fois, je suis pour la strat d'Apple d'imposer un store qui ressemble à quelque chose, tu vois. Même le contenu édito, je trouve top ce qu'ils font et je suis hyper fan. Mais je comprends aussi la problématique des devs indés, des petits mecs qui bidouillent. Moi, j'ai plein d'étudiants qui ont plein de petits projets d'étudiants et à chaque fois qu'ils doivent tester le truc, rien que pour le mettre sur test flight, c'est-à-dire le partager en bêta fermé à leurs propres utilisateurs autour, il faut remplir une fiche ultra précise. Ils disent « Ouais, mais on n'en est même pas là, en fait. Nous, on veut juste voir si l'app, elle marche. » quand on la partage à 100 utilisateurs, voir s'ils l'utilisent correctement. Mais ils sont obligés bah, quand même de mettre les 50 icônes, le truc du store, etc. Et bon, voilà, c'est... Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Et comme tu dis, c'est assez rare de voir Apple reculer, mais pour une raison simple, là, c'est qu'ils se disent, le problème, c'est qu'on va commencer à se mettre la communauté des devs indépendants, en particulier à dos. Et c'est juste une question d'image. Et d'ailleurs... il y a eu un article que j'ai vu passer, je ne sais plus si c'était The Verge ou je ne sais plus, qui disait en gros Apple ne veut pas passer pour le méchant dans cette histoire. Et là, avec ce qu'ils ont fait, malheureusement, ils ont fait ce truc-là, quoi. Les EIP Tech 4, Tech 5, on connaît tout à fait Dragomoto.
C'est marrant parce qu'il y a un autre truc qui est notable dans les changements qui ont été imposés par le DMA, même si ça a été avec des ricochets dans le reste du monde. L'émulateur Delta Apple a désormais autorisé les apps de streaming et les apps d'émulation parce qu'ils savaient bien que c'est les deux choses qui allaient être hyper populaires sur les apteurs alternatifs. Donc, ils sont pas bêtes. Hein. Ils se sont dit, bon, on va peut-être du coup, nous, l'autoriser aussi puisque ça va être de toute façon les trucs qui pourraient amener les utilisateurs sur les autres apteurs. Et bien, l'émulateur Delta, c'est l'app la plus populaire de l'App Store aux US depuis des semaines et ça ne tarit pas. Donc,
mais t'imagines la menace si Microsoft lançait son store alternatif avec le Xbox Cloud Gaming, Office dedans et toutes ces apps en fait.
Enfin, ah bah ça risque d'arriver.
Il y a trop à perdre.
Ça risque d'arriver quand même.
Alors, je suis pas certain parce que pour le coup, en termes de découvrabilité, de facilité d'installation, etc. Je pense que Microsoft et de partenariat même historique avec Apple. Ouais. Je pense que Microsoft préférera mettre son Xbox dans le cloud sur l'App Store.
Sur l'App Store, oui. Désormais, ils peuvent. Ouais, oui. C'est sûr.
Mais d'ailleurs, il n'y est toujours pas et je l'attends avec hâte parce que je suis Ultimate et ça me manque.
Corben, tu vois se développer l'écosystème d'App Store ou même d'App en parallèle parce que toi, tu es un petit peu plus connecté au monde de la bidouille et du libre et de tout ce genre de choses.
Non,
tu penses
justement,
que ça
non.
va... Non ?
Enfin, j'ai pas vu trop de trucs. Ça a beaucoup parlé de ça au début, là, quand ils ont ouvert. Mais pour l'instant, les trucs qui sont lancés sont pas encore foufous. Et puis, je pense qu'il faut attendre qu'il y ait un gros... C'est, pour l'instant, ce qui s'est lancé, c'est des espèces de stores qui avant étaient un peu pirates, quoi.
Oui, c'est ça. L'Alt Store, notamment.
Ouais, du coup, je pense pas que les gens aient très confiance. Et voilà, j'ai pas vu d'engouement là-dessus particulièrement. Je pense que ça viendra quand il y a quelqu'un de fiable, une grosse société qui sortira son store quoi. Mais là pour l'instant ça reste plutôt on retrouve soit les mêmes applis soit des applis de merde, faut le dire aussi. On était recalé chez Apple quoi, donc
voilà c'est bon, ça
voilà c'est pas
il est possible que tout ça soit un coup d'épée dans l'eau hein, c'est possible aussi mais bon ça va prendre des années avant de
moi je suis pas sûr hein. Je suis pas trop sûr. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que là, Apple est en concurrence avec son propre écosystème. Parce que c'est ça, en fait. Hein, avec son propre écosystème de dev. Ils feront tout pour étouffer la possibilité qu'un App Store alternatif, et, par exemple, hyper designé, et avec un édito, etc. Je pense qu'Apple, justement, changera sans doute ses conditions. Peut-être qu'ils baisseront le prix de leur licence, peut-être qu'ils ils valideront les choses différemment. En fait, ce qui est cool, c'est de voir que déjà, c'est le cas. C'est-à-dire que quand ils ont vu que le succès des émulateurs, etc., était là, en fait, bah, ils ont desserré largement la ceinture sur ça. Et en fait,
avant même que ça commence, ça a eu des effets sur l'App Store dans le monde entier. Parce que
exactement. En fait, ils ne sont pas en concurrence sur un modèle économique, ils sont en concurrence sur des fonctionnalités et des autorisations, en fait, tout simplement, d'applications. Et ces stores-là n'ont pas ces limites. Et du coup, quand Apple va sentir que, attention, là, effectivement, ils risquent de se faire de la promotion sur typiquement les émulateurs, en fait, il faut que nous aussi, on le fasse. En fait, qu'est-ce qui nous interdit de le faire, finalement ? Et ils ont juste pris, pour le coup, ils ont fait un pas en arrière sur leur propre stratégie et ils sont sans doute dit... Ouais, en fait, on va se mettre qui à dos ? Nintendo ? Mais en fait, de toute façon, les gens vont le sideloader, donc quel est le problème, en fait, tu vois ? Ouais. Voilà.
Bon, écoutez, on continue à suivre ça, évidemment. Et puis, je dis on continue à suivre ça, ça va prendre des années avant qu'on ait la réponse finale. Hein, mais en fait,
on sera patient.
D'un côté... ça va prendre des années. Et de l'autre, comme tu le rappelles, Cédric, ça a déjà eu des effets, puisque émulateur, streaming, etc., partout dans le monde aussi.
Ah oui, mais clairement. Ouais.
Et puis, je voulais mentionner que, vous l'aurez compris, on enregistre avant la conférence de ce soir d'Apple, qui est dans quelques heures, là. Donc, a priori, vous écoutez cette émission après que la conférence iPad et processeur M4 aient eu lieu. On en a parlé la semaine dernière, on ne va pas en reparler, mais on détaillera ça la semaine prochaine. Troisième news, c'est en fait plusieurs news sur l'IA utile. Je mets des guillemets, mais en fait pas vraiment. Il y a quatre exemples que je voulais vous donner d'implémentations réelles dans le monde, dans le vrai monde où il y a des vrais gens, d'IA qui servent à des trucs. Victoria Shi, c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien et elle n'existe pas. C'est une personne qui a été générée par IA, qui est générée en vidéo par IA, qui a été modélisée sur une personne qui existe, une Ukrainienne, hein, qui est une chanteuse, je crois. Et elle va servir au ministère des Affaires étrangères à faire des déclarations, des annonces pour le monde, sans avoir besoin d'avoir un studio, des caméras, des lumières, parce qu'elle sera générée par IA. Alors, c'est le ministère des Affaires étrangères qui écrit les textes, qui contrôle le tout. Donc, il ne s'agit pas de, évidemment, faire dicter la politique étrangère de l'Ukraine par une IA. C'est pas du tout ça. C'est simplement les images vont être générées par IA avec ce personnage qui va devenir une personnalité virtuelle qui sera toujours la même et générée par IA au lieu d'avoir besoin de mettre en place le studio, l'éclairage, etc. Et donc, on est 100% dans la question de la productivité, de rendre possible la création de choses qui n'étaient pas possibles avant, sans IA, avec, concrètement, ce que ça veut dire, c'est des budgets réduits et des moyens qu'on n'a pas forcément. Donc ça, c'est le premier exemple, mais j'en ai d'autres. Le deuxième, c'est le clip du groupe Washed Out, qui s'appelle The Hardest Part, et qui est lui aussi entièrement généré par IA. Alors, encore une fois, je vais être parfaitement honnête, c'est cringe, c'est moche, ça se comprend complètement que c'est de l'IA, c'est en fait deux personnages qui, la caméra avance pendant tout le clip, et on suit deux personnages du moment où ils sont sans doute lycéens jusqu'à ce qu'ils soient très âgés, qui se déplacent généralement vers le fond de l'image, et la caméra passe derrière eux et puis continue, c'est une sorte de boucle infinie. On traverse différents environnements, différents âges, et on voit leur vie en gros, hein, à peu près. Alors ça se voit que c'est de l'IA, c'est pété, c'est pas aussi moche que ce qu'on a pu voir par le passé, c'est un petit peu plus travaillé, mais on est peut-être au niveau des IA d'images, des images générées par IA d'il y a un an, où il y avait les 6 doigts, les 150 dents, ce genre de choses. C'est-à-dire que au premier abord, ça ressemble à une image normale, et puis très vite, tu repères des trucs où tu dis, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai, mais le groupe en question, il a fait un clip, j'imagine, avec une idée artistique qu'ils avaient à la base. C'est pas un clip qui est dont le but est, regardez, on a fait ça avec de l'IA. Donc, le point de communication, c'est le premier clip fait par IA. Non, pas vraiment. Alors, évidemment, beaucoup de gens s'y sont intéressés pour cette raison, mais c'est mentionné à aucun moment dans le clip. C'est simplement le groupe ou le réalisateur du clip qui s'est dit, c'est ça que j'ai dans la tête et je veux le mettre à l'image, il l'a fait, encore une fois, sans avoir d'acteur, sans avoir de caméra, sans faire tous ces décors, parce qu'il y a des dizaines de décors, ça n'aurait pas du tout été possible pour un groupe avec des moyens limités de faire ce genre de clip. Donc là encore, c'est une IA qui a servi à faire quelque chose qui n'aurait pas été possible sans. C'est là encore les débuts de l'application concrète de ce que permet l'IA. Je laisserai à d'autres le soin de débattre sur les conséquences sur les réalisateurs de clips, les techniciens du cinéma, les acteurs, etc. etc. Encore
moi,
un autre
pas
exemple
si cringe sur le... Attends, juste sur ce truc. Moi, je ne l'ai pas trouvé si cringe, ce clip.
C'est vrai ?
Ouais. Moi, je ne l'ai pas trouvé si cringe. Enfin, alors, je viens des années 80-90, comme Marty McFly. Et ce que je peux te dire, c'est qu'à l'époque, quand il y avait encore des clips à la télé, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y avait quand même des
trucs... C'est sur YouTube maintenant.
Il y avait quand même des trucs très glauques, très cringe, faits par des réalisateurs avec des trucs bien bizarres, bien dark, qui mettaient un peu le malaise.
Ce que je veux dire, c'est cringe par rapport à l'IA. C'est que les personnages, tu sens que ce n'est pas toujours la même tête, tu sens que c'est fait par IA. Dans ce sens-là, c'est cringe. Le clip en lui-même, l'idée du clip, tu vois, elle est complètement cohérente. Mais c'est juste que tu sens l'IA.
C'est un effet aussi, tu vois. Ce que dit Corben est aussi juste. Et des fois, tu voyais des trucs un peu étranges dans les clips et tout ça. Ouais. Et des fois, c'était lié à des effets visuels, d'ailleurs. Mais là, en fait, ça revient un peu au même. C'est-à-dire que tu as un truc poétique, onirique, ou tu sais, tu es un peu dans la vallée de l'étrange. Tu sais pas si c'est. Je vois ce que tu veux dire, Patrick. Toi, ça te dérange dans le sens où c'est vraiment la vallée. Si c'est un peu l'Uncanny Valley, quoi. Tu vois, c'est vraiment genre. C'est entre. T'as envie de, tu te dis, est-ce que l'intention c'était de faire un truc hyper réaliste ou est-ce que l'intention c'était de faire un truc artistique, et en fait on est coincé entre les deux. Et en fait, on sait que c'est généré par de l'IA, et donc c'est du coup, on se dit, mais quelle est l'intention artistique du coup ?
En fait, pour moi, c'est artistique. Voilà. Hein, pour moi, c'est artistique à 100%. Il n'y a pas du tout de réaliste.
Bah, je suis content que vous insistiez sur ce point, parce que, en fait, quand tu connais un petit peu le fonctionnement des IA, tu le vois, et donc tu te dis, ah ouais, bon, c'est fait par IA. Mais c'est vrai que, parce que c'est des trucs du genre les voitures avec 4 rangées de chaises ou des. Mais si tu ne le sais pas, c'est vrai qu'en le regardant de cette manière, puisque vous l'évoquez. En regardant savoir que c'est l'IA, alors tu te rends compte qu'ils courent de manière un peu bizarre par moment quand même. Mais,
oui, ils ont leur jambe gauche qui devient leur jambe droite.
C'est ça que je parle de truc. mais oui, c'est complètement artistique, ouais. Aussi, ça peut.
T'imagines une déformation, tu sais, avec une lentille ou un truc, tu vois, un peu perché. Ça fait un peu ça, quoi, tu vois.
Ouais. Donc moi, voilà, ça aussi, ça sera dans la newsletter et sur le groupe WhatsApp. Audiobook par IA, il y a aujourd'hui 40 000 livres audio sur Audible qui sont lus par des IA. 40 000 qui sont lus par des IA. Souvent, c'est le système de Eleven Labs qui donne la voix à ces lecteurs. C'est intéressant, là encore, parce que c'est un truc qui rend possible le fait d'avoir des audiobooks pour des auteurs qui n'en auraient pas forcément ni le temps ni les moyens, qui ont écrit un livre, qu'ils font lire par une voix virtuelle, et qui peuvent, pour une centaine d'euros et une heure, transformer leur livre en audiobook, là où... si on veut engager un narrateur ou une narratrice, bah, ça va coûter 2, 3, 4, 5 000 dollars et les gens n'ont pas forcément les moyens. Les lecteurs semblent dire, ou les auditeurs semblent dire, effectivement, la voix, elle est good enough, elle est OK, c'est pas fou, mais ça fait le job. Ce qu'ils aimeraient surtout, c'est pouvoir soutenir les vrais narrateurs et donc filtrer. La demande principale semble être, est-ce que vous pouvez nous permettre de filtrer le fait que les livres soient lus par des IA ou pas ? Parce que moi, j'aimerais bien avoir uniquement des vraies voix, et ça, on peut tout à fait le comprendre. Mais il y a vraiment, là encore, ces deux éléments. Pour les auteurs qui peuvent, pour 100 balles, transformer leur livre en audiobook, bah, c'est une aubaine, quoi. Ou en tout cas, ça donne des possibilités. Après, évidemment, ça veut dire qu'il y a des millions d'audiobooks. Mais moi, il m'est arrivé, je suis un gros consommateur d'audiobooks, il m'est arrivé de vouloir un livre, parce que je préfère en audiobook plutôt qu'en livre normal, il m'est arrivé de vouloir un livre en audiobook et de ne pas le trouver, parce qu'il était pas, il n'existait pas en audiobook. Bah, aujourd'hui, je crois que ça n'existera plus, quasiment, les livres qui n'existent pas en audiobook.
Alors moi, j'ai déjà acheté des audiobooks, et franchement, en fait, le truc, c'est que t'as même quatre niveaux. C'est-à-dire que t'as des gens qui lisent des lecteurs d'audiobook, donc des gens qui, des humains, quoi, qui ont une voix dégueulasse. Ils parlent de manière monocorde. Tu t'endors au bout de 3 minutes. Après, avant les IA, il y avait déjà des livres audiobook générés avec de l'audio, mais c'est pareil, c'était une voix de robot complètement monocorde. Et ça, tu dépenses 20 balles et ou je sais pas combien ça coûte ou 5 balles et tu te retrouves avec ça, bon bah tu te fais rembourser, mais t'as les boules quand même, tu vois. Et là, l'IA, alors j'ai pas entendu ce que toi t'as entendu, Patrick, mais moi, de ce que j'ai entendu là avec l'IA il y a quelques mois, c'était encore très robotique, très voilà. Alors je sais que ça s'améliore, ça va être de mieux en mieux, on va sentir peut-être plus les émotions, les tournures, enfin ça va être plus joyeux, quoi, on va dire. Mais pour l'instant, enfin en tout cas moi, ce que j'avais vu là pour l'instant, même avec de l'IA, c'est pas encore au point. Ça va venir.
Tiens, attends, je vais chez Eleven Labs spécifiquement et on va voir si je peux faire un exemple.
私の声は落ち着いた印象を与える日本人男性の声です。私の声は落ち着いた印象を。
Attendez, on va.
Are you looking for a deep and dark narrative? You've already found it. Look for John Doe, gentle and intimate.
If today you are feeling small, remember that a single seed can give rise to a mighty forest.
On a beautiful sunny morning, Anna helps her father on the farm. There was still a lot to do, but she was confident that they would succeed together.
¿Quieres cuidar tu salud de forma natural? Presentamos Umari, el producto que te brinda beneficios.
Nana-chan's voice, sweet as morning dew, dances through the air like a melody, weaving a spell of enchantment with her.
Alors là, c'est des voix, c'est le magasin de voix de Eleven Labs. Et j'ai complètement fait au hasard, mais il y a plein de voix différentes. Et
dans ce cas-là, je suis OK. Moi, OK, ça me va.
Donc mais ça doit.
C'est, c'est toujours pareil, tu vois. Tu peux écrire
des exemples en français.
Tu peux écrire des livres entiers avec ChatGPT. Si tu bosses pas bien ton truc, ça va être de la merde, tu vois. Donc c'est toujours pareil, quoi.
Moi, on me dit dans la chatroom, moi, ça fait 15 ans que je dors avec Patrick, que je dors grâce à Patrick. De toute façon, je sais pas si c'est un compliment. J'endors les gens. Attendez, on a Martin Dupont intime.
Je t'attendais. Si vous avez besoin d'une voix grave et chaleureuse, je suis là.
Manuel formateur.
Toute notre connaissance a pour origine nos perceptions.
Ah, alors ça, c'est du canadien, ce qui est très bien.
Le bonheur ne réside ni dans les possessions, ni dans l'or. Il habite l'âme.
En français, j'ai l'impression que c'est un peu moins bon quand même que...
Il habite l'âme.
Elle rencontra un voyageur expérimenté, ayant parcouru de nombreuses galaxies. Ouais, pas mal.
Ça va, bon, encore une fois, je les prends au hasard. Bref, donc, c'est avec ce genre de voix. Franchement, c'est, je pense que si tu trouves la bonne, c'est vraiment, bon, bah, ça passe, quoi. Et c'est ce que disent les lecteurs. En anglais, encore plus qu'en français, mais tout de même.
Ouais.
C'est Eleven Labs. On en reparlera tout à l'heure de Eleven Labs. Et je conclue avec la dernière news qui est, vous vous souvenez que je vous parlais il y a deux ou trois semaines du test de la DARPA aux États-Unis qui a réussi à faire un dogfight entre un avion piloté par un humain et un avion piloté par une IA.
Oui.
Bah, ça a bien marché. Et donc, l'armée de l'air américaine a commandé 1000 avions de chasse pour 2028, 1000 avions de chasse contrôlés par des IA. Vous voyez que c'est utile, l'IA. Je ne sais pas ce que j'en pense de ça, parce que d'un côté... si on envoie des avions sans pilote se battre entre eux, c'est peut-être pas plus mal.
Ça s'appelle un drone. Hein.
Bah oui, c'est ça. Mais non, mais c'est pas tout à fait un drone parce qu'un drone c'est contrôlé par le, tu vois. Mais en même temps, l'IA, il y a toujours une chance qu'il fasse une erreur et qu'il ou encore ça peut déshumaniser le truc. Enfin, je suis si c'est deux avions contrôlés par IA qui se battent entre eux, bon bah très bien.
Les dogfights, c'est très rare en réalité. L'avion, c'est juste fait pour bombarder. Enfin, tu vois. Donc ça va être ça surtout. C'est pour jamais il y a un mec avec un lance-roquette par terre qui shoot l'avion, y a pas de mort. Enfin, il y a personne dans l'avion, quoi.
Mm. Oui, mais tu vois typiquement comme tu dis, les dogfights c'est hyper rare parce que des fois on hésite à engager l'autre avion au risque de se faire aussi descendre. Enfin, il y a un
on comme si c'était pilote de chasse.
Mais non, je dis on parce qu'on connaît un pilote de chasse, justement.
Ah bah voilà. Donc,
d'accord, ok, ça marche.
On, de manière générale, c'est la prise de décision d'engager en fait un dogfight.
C'est plus lourd quand t'as un humain dans l'avion que quand
beaucoup
c'est
plus
un
lourd.
Robot.
Voilà, exactement. Les conséquences sont pas exactement les mêmes et puis ça montre une agression, etc. Là, si c'est une IA, bon, en fait, elle a décidé d'elle-même. C'est pas grave. Et surtout, en termes de perte, c'est pas la même histoire, tu vois. Mais moi, je me dis juste un truc, c'est que si à un moment donné, on envoie que des avions pilotés par IA contre des avions pilotés par des IA. Autant qu'on joue à StarCraft, en fait, et à la fin, celui qui a gagné a gagné, quoi.
Non, mais c'est vrai.
Ça coûte moins cher.
C'est ça, on est d'accord.
Ça coûte moins cher, en fait. Voilà.
C'est peut-être ça, le truc, c'est que c'est celui qui a, comme dans toutes les guerres de l'histoire du monde, celui qui a le plus d'argent, a priori, il est avantagé. Alors que sur StarCraft, c'est celui qui joue le mieux à StarCraft. Bon.
Exactement.
Ah, peut-être qu'on y viendra, ça sera peut-être le sens de l'histoire.
C'est ça, peut-être.
La guerre se terminera grâce à l'IA.
Pardon.
Bon, quelques autres petites news d'IA. Il y a YouTube qui est en train de déployer dans certains contextes une fonctionnalité qui permet d'aller directement au contenu de la vidéo qui est intéressant, géré par IA. Genre, il y a un bouton qui s'affiche qui est Jump Ahead, c'est uniquement aux États-Unis sur Android. Jump Ahead, et ça t'amène au moment de la vidéo où c'est intéressant. Je ne sais pas là non plus si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et on parlait de Eleven Labs à l'instant. Outre le fait qu'il y a, là encore dans la newsletter, un super article sur la société, c'est une société qui vaut 1 milliard. Ils sont dans un bureau londonien. Ils partagent leur salle de conférence avec une autre boîte. Ils n'ont pas de fenêtre. Enfin, c'est genre une pièce. C'est assez bizarre, mais l'article sera dans la newsletter. Et ils ont aussi lancé un générateur d'effets sonores. Ça marche beaucoup moins bien, beaucoup moins bien. J'ai demandé, par exemple, une voiture qui s'arrête, qui freine super fort Attendez, on va écouter ça.
Oh, mes oreilles.
C'est un peu trop fort.
Là, elle accélère d'abord.
Elle accélère.
Attendez. Il y a un dinosaure qui crie de façon super mignonne. Mais je suis pas convaincu. Le son des arcs-en-ciel.
On est dans Love for Bite,
Love Rishi. Ça, c'est le son des arcs-en-ciel.
Oui, mais ça, c'est vrai. Si vous allez au pied de l'arc-en-ciel, on l'entend.
Ah oui, c'est vrai. D'accord, bon, c'est parce que je connais pas.
Non. Okay, mais c'est comme le son des dinosaures, en fait.
Et un jingle super fun pour une émission, un podcast de tech. Un jingle super fun.
Alors, tu t'es lancé dans la logistique, peut-être. Je crois, parce qu'il y a un bateau à la fin.
C'est ça. Bon, voilà, sur les effets sonores, ce n'est pas forcément encore tout à fait ça. Mm-hmm. Et je crois qu'on arrive à la fin de nos sujets importants de la semaine. Avant de passer au petit sujet plus rapide, je voudrais vous rappeler que si vous aimez les podcasts faits par des humains, pour le moment, enfin jusqu'à ce stade, vous pouvez les financer. Vous pouvez financer sur patreon.com/rdvtech le podcast Le Rendez-vous Tech pour qu'on puisse continuer à faire ces émissions et que je puisse continuer à acheter des écrans pour que ma fille ne vienne pas m'embêter pendant que je fais les émissions, même si elle est à la maison. C'est très important, patreon.com/rdvtech. Ça ne coûte pas grand-chose, hein. Ça coûte 1 euro, 2 euros, 3 euros. Vous choisissez et vous êtes automatiquement débité à la fin du mois. Vous inscrivez sur Patreon, ça marche super bien. Il y a plein de gens qui sont sur Patreon, donc vous pouvez soutenir la vraie création de vrais êtres humains, comme par exemple Corben, hein, au hasard, il est aussi sur Patreon. Non. Et avec un compte aujourd'hui, quand j'ai commencé, c'était pas ça. Hein. Quand j'ai commencé, c'était genre personne connaissait Patreon, il y avait que moi et deux autres Pékins. Et aujourd'hui, il y a plein de gens sur Patreon. Donc c'est, à mon sens, un super moyen de soutenir la création, les créateurs de contenu que vous appréciez. patreon.com/rdvtech, vous pouvez le faire tout de suite, ou quand vous rentrez à la maison, vous savez déjà ce que je vais dire, je mets les clés dans le bol, ça fait cling, et je me dis, Patrick, cling, Patrick, je vais sur patreon.com/rdvtech. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà, et à tous ceux et à toutes celles qui y réfléchissent, n'hésitez plus, c'est aujourd'hui ou jamais, c'est le moment, pourquoi pas aujourd'hui, si vous trouvez une bonne raison pour ne pas le faire aujourd'hui, vous pouvez, mais si vous ne trouvez pas de bonne raison, eh ben, il faut y aller. patreon.com/rdvtech.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La suite des news. Je mettrai cette news dans la newsletter également, mais on va en parler un tout petit peu. Il y a une société qui s'appelle Hubble Network qui a construit, qui a réussi à faire la première communication, tu connais, Corben ?
Ouais, j'en ai pas. J'ai vu ça hier, je te donnerai mon avis. Vas-y.
Première communication entre un accessoire Bluetooth et, tenez-vous bien, un satellite. Je sais que vous avez du mal à connecter l'accessoire Bluetooth qui est genre la pièce d'à côté. Je sais bien. Et c'est ce qui m'a surpris aussi. Eh ben, en gros, ils décrivent ça avec genre un système, ils disent c'est genre des loupes, quoi. Enfin, des loupes pour les signaux. Et ils réussissent à connecter un satellite qui est à 300 ou 400 km d'altitude à un accessoire Bluetooth. Alors évidemment, les applications, elles sont nombreuses et importantes. Hein. Si vous réussissez à capter les signaux d'accessoires Bluetooth, bah, vous pouvez avoir facilement dans le monde entier des trucs qui peuvent se parler entre eux sans avoir du Wi-Fi à proximité. c'est pas moi l'expert, donc je vais les croire sur parole, hein, ils ont réussi. Corben, t'as l'air un peu plus sceptique, tu disais.
Non, bah, j'ai lu ça hier, en fait, ça m'a intéressé, tu vois. Je me suis dit, comment c'est possible, quoi. Alors, le truc, c'est qu'ils n'ont rien donné en explication technique, ils n'ont rien montré, il n'y a pas de... Donc, je pense qu'ils y sont arrivés, hein, je pense que ça marche, etc. C'est validé. Mais à mon avis, anguille sur roche. À mon avis, il y a un accessoire de malade que tu pourras jamais. Enfin, tu vois, il y a un truc qui fait que c'est pas possible, quoi. Enfin, tu vois.
Ouais. Genre, c'est du Wi-Fi avec une antenne en plus qui est pointée vers le satellite.
Non, parce qu'il te dit, c'est sans modification de l'appareil. Enfin, ouais. Tu vois, c'est pas possible techniquement. Sans modification de ton smartphone, ton appareil, ton truc Bluetooth sur Terre, ils arrivent à communiquer avec un satellite. C'est pas possible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont pas parlé, ils ont pas expliqué ce qu'ils ont mis en place. Donc moi, j'imagine que c'est un truc qui fait la taille d'un immeuble. Enfin, tu vois, pour amplifier le
signal.
On n'a
pas modifié l'appareil, mais on l'a mis dans une pièce qui est en fait une antenne amplificatrice. Ouais, c'est ça. C'est
un peu... Pour moi, il y a un truc qui est pas clair, et à mon avis, il y a un truc bullshit derrière. Enfin, voilà, on sera déçus, quoi. Il y aura un effet, on va être déçus, quoi.
Eh bien, écoutez, un truc sur lequel on va pas être déçu, je pense, parce qu'ils sont clairs depuis le début, c'est la production de batteries sodium... Attendez, que je dise pas de bêtises. Sodium-ion, et pas lithium-ion. Des batteries sodium-ion qui sont entrées en production pour la première fois par la société Natron Energy. Et les avantages des batteries sodium-ion, c'est qu'elles se chargent 10 fois plus vite que les batteries lithium-ion. C'est aussi le fait que le sodium est encore plus facile à trouver que le lithium. Il y en a vraiment partout. Enfin, je vais faire hurler les chimistes, mais c'est un petit peu du sel, quoi. Donc, ça va. Et donc, c'est des batteries qui vont transformer l'infrastructure, qui pourraient, je vais rester prudent, qui pourraient transformer l'infrastructure électrique. Pourquoi qui pourraient? Parce qu'il y a aussi des désavantages, et surtout pourquoi l'infrastructure électrique et pas tout ce qu'on utilise, parce que ça se décharge aussi très très vite. C'est-à-dire que si vous le laissez reposer sur votre... Si vous avez un iPad qui a une batterie sodium-ion et que vous le laissez sur votre bureau, il va décharger 10 fois plus vite que l'appareil qui aurait une batterie lithium-ion. Donc, sur des trucs comme, j'en sais rien, une voiture par exemple, que vous utilisez tous les jours, a priori, si elle se charge en 1 minute et demie et qu'elle se décharge en 1 semaine, au lieu de garder la charge pendant 1 mois, je dis au hasard, c'est pas la fin du monde. Elle se décharge en 1 semaine, elle est là devant chez vous, vous pouvez la recharger très vite et généralement vous la prenez tous les jours, ça va. Et ça fonctionne. Par contre, pour d'autres types d'appareils, ça marche moins bien. Et puis, on parle d'infrastructure en général. Ça peut être utile pour plein de choses. Un autre problème aussi, c'est que la densité d'énergie est plus faible que sur le lithium-ion. On travaille aussi à ça et elle est de plus en plus élevée. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que ce type de batterie entre en production véritable, en production industrielle. Et ça sera intéressant pour certains types d'usages. La densité d'énergie, c'est aussi problématique parce que pour les trucs mobiles, c'est plus gênant que pour les trucs où on a moins de problèmes de place, en gros. Donc, c'est aussi un souci. Et puis, il y a un article intéressant dont je parle ici, mais qui sera décidément, la newsletter est à l'honneur aujourd'hui. Un article sur Spamouflage Dragon. C'est la campagne de désinformation de Chine qui cible les US par les réseaux sociaux. Et il y a un article qui explique très bien pourquoi ça marche pas, en fait. Pourquoi ça marche en tout cas moins bien que les campagnes russes et pourquoi... C'est, en gros, en quelque sorte, c'est des questions d'administration, de lourdeur administrative dans l'apparatus chinois, de questions de différences culturelles entre la Chine et les États-Unis. En gros, ils sont 10 ans en retard par rapport à la Russie. Mais ils évoluent et il y a des trucs. Bref, l'article est super intéressant. Mais la raison pour laquelle je l'évoque sans en dire plus, c'est qu'on reparle un petit peu de TikTok, dont le ban a été voté la semaine dernière aux États-Unis. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit que le ban de TikTok en Europe n'était pas forcément exclu et que nous savons très bien les dangers que représente TikTok en 2024. Donc, bon, bah, ce n'est pas forcément une surprise, mais en Europe, ce n'est pas exclu, ce n'est pas très engageant de dire ça. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que 58% des Américains aux États-Unis sont d'accord sur le fait que le gouvernement chinois utilise TikTok pour influencer l'opinion publique américaine, et 50% sont pour le fait de bannir TikTok. J'aurais jamais pensé que les chiffres étaient aussi élevés. Sachant que le fait que le gouvernement chinois soit activement en train d'influencer le public américain à travers TikTok, je ne suis pas convaincu, mais bon. Et puis, dernière chose sur TikTok, Universal Music Group a conclu un accord avec TikTok, et donc la musique d'Universal revient. C'est fou, c'est incroyable, ils ont négocié, ils ont obtenu mieux que s'ils n'avaient pas menacé. Bon,
bah, on ne s'y attendait pas.
Mais tout ça, c'est des cacahuètes, parce que le vrai danger pour TikTok... c'est qu'il semblerait qu'ils soient en train d'essayer de contourner les 30% d'Apple sur l'App Store en encourageant les gens, les utilisateurs à passer par un lien web pour acheter des... Et ben là, c'est fini. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Goodbye TikTok. Si c'est avéré, ils sont bannis de l'App Store demain. C'est ça le vrai danger. La manipulation de l'opinion américaine, tout ça. Non, essayez de contourner les 30% d'Apple, là, vous êtes dans la merde. Donc,
ah voilà, bah ça, Epic Games le sait, hein.
Carrément. Enfin, si vous avez des avis sur TikTok, sur l'Europe, sur est-ce qu'il faut bannir ou pas, vous pouvez en un instant, en une minute, nous dire ça, mais sinon, on enchaîne.
Ouais, non, moi, je suis pas trop pour le bannissement, mais bon.
Moi, je pense que l'Union européenne est plus en réaction à ce qui se passe aux États-Unis. Et là, ouais, encore une fois, tu vois, en fait, pour le coup, ça me fait penser à l'histoire des écrans. C'est-à-dire, attendez, on n'est pas en train de rien faire non plus. Hein. Vous voyez, ouais. On est en train d'étudier aussi, nous, le truc. C'est genre... et on existe toujours, hein, voilà. Mm. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent... Mais en ce moment même, là, au moment où on se parle, il y a Xi Jinping, là, qui est dans les Pyrénées, d'ailleurs. Ça me fait rire, à la Mongie. Ouais, il est en France, visite avec Emmanuel Macron. Il va rencontrer... Ursula von der Leyen, je crois que c'est demain ou après-demain, je ne sais plus. Enfin, il passe par l'Europe. Il va faire un tour un peu des pays européens. Tu sens que, bon, voilà, il y a... l'idée, c'est des... Alors, ce qu'ils expliquent, c'est que la réunion avec Macron est là surtout pour des histoires d'Ukraine, puisqu'on sait que la Chine soutient quand même un peu la position de la Russie. Hein. Mais l'idée, c'est de ne pas aller beaucoup trop loin et d'essayer d'imaginer une désescalade du conflit. Bon, j'en y crois un peu moyen, mais bref. Mais c'est un autre sujet. Mais surtout, en fait, ils disent ça... juste avant l'arrivée du président chinois, en mode « Regardez, il vient chez nous, mais attention, hein, on pourrait faire quelque chose qui pourrait le mettre en colère et qui pourrait le faire regretter de ne pas se plier à ce qu'on lui impose. » En fait, c'est un jeu de dupes. C'est plus un jeu politique qu'autre chose. Je ne vois pas l'interdiction de TikTok débarquer comme ça du jour au lendemain en Europe.
Oh bah, ça ne serait pas du jour au lendemain. Non, mais je pense que vu que le ban a été voté aux États-Unis, c'est normal qu'on aille poser la question à l'Union européenne. Tu vois. Ouais. Et elle ne va pas dire... et évidemment qu'elle ne va pas dire « Non, nous ne bannirons jamais TikTok, c'est hors de question. »
Non, laisse la porte ou l'inverse. Voilà, elle dit « Non, mais en fait, bon, on y réfléchit. Voilà, nous aussi. »
Bon, okay, c'est pas exclu, c'est, vous, c'est...
Non, mais dire ça ou rien dire, en fait, je veux dire, c'est à peu près le même effet.
Oui, mais t'es obligé de répondre quand on te pose la question.
Donc, tu vas pas dire les salaires de ces gens, je suis d'accord.
Non, mais non, d'accord. Non, mais je peux pas...
Non, je plaisante. Je plaisantais, Patrick. Évidemment, t'es obligé de répondre à ce genre de questions, tu peux pas laisser...
Et c'est une réponse normale, quoi.
Complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus pour occuper le terrain médiatique, finalement, qu'autre chose. On sait même pas ce qu'il y a derrière, on sait rien, enfin... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'effets d'annonce. En fait, on s'excite trop sur ce genre de truc et ça commence à me fatiguer de chercher.
Personne s'est excité là. T'es le seul à t'exciter.
Non, je parle de la presse en général. Tu sais, c'est quand tu lis les titres de la presse, c'est... Bon. T'as l'impression qu'ils vont être bannis demain, quoi, en Europe. Et non, calmez-vous.
Je les ai pas vus.
On n'est pas là, quoi.
On n'en est pas là, ça, c'est certain.
Ouais, clairement.
Il y a une étude intéressante sur les milices, quand on parle des dangers externes, on peut aussi parler des dangers internes. Il y a plus de 200 groupes Facebook qui s'organisent, des milices donc, qui s'organisent, des milices extrémistes aux États-Unis cette année, qui s'organisent. Elles n'ont pas fait beaucoup de bruit après le 6 janvier, le fameux 6 janvier, ce qui s'est passé au Parlement américain. Mais là, il se réveille. Donc, c'est l'année de l'élection. On imagine que ça va être, ça pourrait être encore un petit peu chaud. Parlons de Twitter une seconde. Vous connaissez Grok, l'IA de XAI qui s'entraîne sur Twitter, eh bien, Elon Musk a eu l'idée de remplacer les résumés de news, ou en tout cas de faire des résumés d'informations, des résumés de tendances, de remplacer les tendances par des résumés écrits par Grok sur le contenu de Twitter. Et là où, on pourrait se dire pourquoi pas, mais là où il y a une petite interrogation, c'est que l'idée, c'est de résumer une situation qui est en tendance sur Twitter uniquement en regardant les tweets eux-mêmes.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
C'est-à-dire que, pour que les gens comprennent bien, pour les gens qui n'utilisent pas Twitter, souvent les tweets, c'est des réactions à des trucs. Bon, on peut commenter aussi. Mais le problème d'un résumé de ce genre de choses, c'est qu'on imagine qu'on voudrait comprendre de quoi ça parle. Et ce que dit Elon Musk explicitement, c'est qu'on ne va pas aller regarder le contenu des liens, des articles qui sont liés, mais uniquement ce que disent les gens sur Twitter. Alors peut-être que ça pourrait marcher. Mais ce qu'on veut quand on veut un résumé, c'est savoir la nature de l'information du sujet qui est discuté sur Twitter. Et est-ce qu'on peut... Peut-être que ça marche, hein. Peut-être que ça marche. Mais ça me paraît...
Je sais pas. Ouais, mais t'imagines, en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui, dans les commentaires, vont colporter des fake news, genre les vaccins contre le Covid t'autorisent à avoir la 5G gratuitement. Bref, tu vas avoir des réactions de ce type-là qui vont apparaître dans le résumé comme des faits, en fait. Et... Alors, il y a quand même une grosse mention hein, à sa décharge. Il y a une grosse mention en dessous en disant que ce truc a été généré par une IA et peut comporter des informations fausses, etc. Mais en fait, à partir du moment où on sait que
c'est fait, il précise que c'est fait sur les
oui, basé sur les contenus,
les contenus de Twitter,
les contenus générés par les utilisateurs. Ouais, c'est ça.
Bon, l'exemple qu'il donne, ça marche. L'exemple qu'il donne, ça. Si ça se trouve, on va être surpris. Et il y a suffisamment de bribes de l'information ou de l'information elle-même. Tu vois, avec des gens qui postent, des abonnés X. Je me fais l'avocat du diable un petit peu, hein. Mais des abonnés X qui postent leur contenu sur Twitter. Aujourd'hui, tu vois, qui font vraiment du contenu, qui font des mini articles de blog sur Twitter pour expliquer des trucs, pour donner. Et peut-être que ça peut marcher. Attendons de voir.
C'est basé sur les tendances, donc c'est pas les trucs qui vont peser le plus. C'est pas, tu vois, enfin.
Bon.
C'est bien d'avoir tenté de faire l'avocat du diable, mais.
Je suis qu'à moitié l'avocat du diable. Je me demande si ça pourrait pas marcher quand même.
Ah,
mais
ok.
Bon. Okay. Mais j'attends de voir, on va dire. Microsoft est dans la tourmente. Microsoft va mourir. Ah. Bon, j'exagère.
C'est fini.
Ce qui se passe chez Microsoft, c'est qu'on a vu de plus en plus de gens commenter la sécurité des produits Microsoft qui n'est vraiment pas à la hauteur. Et le problème, c'est que les produits Microsoft, comme Windows, Office notamment, et pas que, et ils sont utilisés partout, y compris dans les administrations aux États-Unis et ailleurs. Et le fait qu'il y ait des alertes de sécurité sur des groupes d'États étrangers qui réussissent à obtenir des documents d'entreprises ou d'administration, ce n'est pas génial. Et donc, il y a eu une annonce assez forte de la part de Nadella qui a dit que la sécurité était désormais la cybersécurité, la première priorité chez Microsoft. Et ils font le seul truc qui compte, c'est toucher à l'argent partout dans le monde, sur toutes les catégories de personnes et de classes socio-professionnelles. Tu lis un truc à l'argent, et ça va forcément avoir des effets. Là, les rémunérations seront liées à des objectifs de cybersécurité à travers la société. Donc, on risque d'avoir une amélioration de la cybersécurité des produits Microsoft, de la sécurité des produits Microsoft, ce qu'on espère en tout cas. Est-ce que Microsoft, j'ai pas trop suivi à ce point, je sais qu'il y avait eu des incidents sérieux, mais est-ce que c'était un petit peu devenu un truc connu dans le domaine de la sécurité, genre, ouais, attends, Microsoft, c'est du gruyère ou c'est
non,
plus...
Non, non.
Pas à ce point-là, non ?
Non, pas à ce point-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas ce sentiment-là. J'avais
non.
Enfin,
non, mais par contre...
Il s'était bien reparti, quoi.
Oui, non. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, Corben. C'est plus comme dans fin des années 2000 où les Windows 98 et compagnie. Enfin, bon, bref. Mais on n'est plus là, largement plus là d'ailleurs. Mais le problème, c'est que maintenant, ils sont devenus tellement centraux au cœur des entreprises avec Teams, avec tous ces outils-là, que ça devient extrêmement stratégique. De protéger les utilisateurs de ces solutions-là. Le souci, c'est qu'effectivement, il suffit que le budget soit déplacé sur l'intelligence artificielle, par exemple, pour qu'on néglige un peu plus. C'est un exemple au hasard. Hein. Oui. Non, c'est pas du tout lié.
D'ailleurs, je
sais pas
si t'as vu, mais
truc existant.
Oui, ils sont en train de développer leur propre modèle. C'est pas surprenant, hein, comme tous les autres, mais qui pourrait concurrencer celui d'OpenAI également. Donc,
ça, c'est... voilà. Mais imaginons. Du coup, fatalement, tu as peut-être des ressources sur, tu vois, des updates. Mmh. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que même si Microsoft, c'est du propriétaire, il se base aussi sur pas mal de librairies et de frameworks qui sont open source, qui parfois, le développeur a, on a eu des exemples récents, hein, le développeur a abandonné la librairie qui est plus mise à jour, il y a une faille de sécurité qui n'est pas patchée, et auquel cas, tu as toute la suite Office qui est concernée par un problème de sécurité grave. Et en fait, ils veulent essayer de se prémunir de ça. Moi, l'écueil de ce truc-là, quand même, c'est que... j'espère qu'ils vont aller dans le sens de plus de contributions à la communauté open source pour justement régler ces problèmes et pas se renfermer sur eux-mêmes en disant « Ok, la communauté open source, c'est bon, les mecs qui abandonnent leur lib, machin, et tout ça, qui créent des problèmes de sécurité chez nous, on n'en veut plus. » Et faire un truc encore plus propriétaire, encore plus chiant à maintenir pour eux d'ailleurs, parce que stratégiquement, je ne crois pas que ce soit la bonne idée. Mais en gros, en se disant, en se renfermant sur eux-mêmes, en disant qu'on va sécuriser le truc le plus qu'on peut, et ça ne serait peut-être pas la bonne solution. Donc... Après, connaissant Satya Nadella, justement, la communauté open source, il aime ça. Et même si ce n'est pas dans l'ADN de Microsoft,
Aujourd'hui, aujourd'hui ils se reposent quand même beaucoup sur la communauté open source.
Ouais, alors, tu sais, tu as vu passer ces articles qui disent que Bill Gates ne lâche pas vraiment Microsoft. Pas, et lui, il est anti... Ouais, mais lui, typiquement, il est... Ouais, et lui, justement, il est anti communauté open source, hein, on ne va pas se mentir. Donc, à moins qu'il ait changé de position dessus, mais... connaissant le bonhomme, je ne suis pas trop certain. Et donc, en fait, je pense qu'ils sont tiraillés entre ces deux choses. Entre si on fait du propriétaire et qu'on sécurise, on met un pognon de dingue là-dedans. En plus, ça va nous servir à nous et on va prendre de l'avance sur nos concurrents. C'est la logique, en fait. C'est soit on sécurise à fond nos produits, on peut le garantir et on prend de l'avance sur nos concurrents. Soit on met un pognon de dingue dans l'open source, mais du coup, ça bénéficie à Microsoft, mais aussi aux autres. Est-ce qu'ils sont dans l'idée de « on veut rendre le monde meilleur » ou est-ce que... On fait ça d'abord pour nous et nos clients. Je sais pas en fait, tu vois, j'ai pas la réponse, mais c'est pour moi c'est les deux visions qui vont s'opposer en fait.
Moi je doute pas tellement de leur engagement auprès de la communauté open source. Vraiment, la boîte a beaucoup changé ces dernières années.
Ouais, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette annonce, tu vois, c'est ça.
Oui, bah moi je pense que c'est tout simple, hein. C'est juste qu'ils vont faire vraiment gaffe à sécuriser leurs produits, tu vois.
Oui, à mon avis c'est ça.
Oui. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme des sujets que j'avais pour cette émission. Il y aura bien sûr dans la newsletter des articles un petit peu plus longs que vous aimerez peut-être lire. Le profil de Eleven Labs, il y a un article sur un parallèle qui est fait, enfin une étude qui est faite sur la manière dont les enfants, les bébés apprennent et les réseaux neuronaux. Et ça permet de comprendre la nature de l'apprentissage, le fonctionnement du cerveau, c'est hyper intéressant. Puis un article sur les hackers nord-coréens sur LinkedIn de Numérama, qui est intéressant aussi. Donc tout ça sera dans les newsletters. Il y a aussi le groupe WhatsApp. Les liens seront tous dans les notes de l'émission. Vous pourrez trouver tout ça. Et vous pourrez surtout retrouver Corben et Cédric, qui font des choses en dehors du rendez-vous tech. Corben, dis-nous où tu es, ce que tu fais. Pendant le rendez-vous tech, tu appuies sur des boutons pour faire publier des articles par IA, c'est ça ?
C'est ça
la productivité ultime. Tu fais un truc où tu t'amuses et tu travailles en même temps en appuyant sur un bouton.
C'est ça, voilà, c'est comme ça, je ne suis pas fatigué.
Exactement.
Donc vous pouvez me retrouver sur Twitch, hein, sur CorbenFR, et puis sur mon site Corben.info, voilà.
Corben.info et sur Twitch également. Cédric, où es-tu ?
Alors, j'avais coupé mon micro 2 secondes parce qu'il y a du bruit autour de moi. Moi, on me retrouve surtout le matin. J'anime une matinale qui s'appelle le Before Work sur la chaîne de l'école, la chaîne Twitch de l'école, donc Epitech Digital School. Et cet après-midi, on est d'ailleurs en live à partir de 15h30 pour le Keynote Apple. On va revenir sur les dernières rumeurs autour des annonces des iPads, etc. Et puis, on va commenter le Keynote en direct. Ça va durer pas très longtemps, d'ailleurs. Je crois que c'est un Keynote court, a priori, entre 30 et 40 minutes. Et puis, voilà, quoi. Et sinon, tous les matins, on me retrouve là.
On est à 2h, 2h30 là, un petit peu plus de la keynote. Vous avez une prévision à faire ou c'est même pas la peine ?
Bon, moi j'ai vu.
Moi je pense que le Pencil Pro là, le Pencil Pro avec le fait que par exemple on puisse le retourner pour effacer avec des nouveaux gestes, des nouveaux trucs.
Ah d'accord.
Ça va être une mise à jour un peu mineure, mais je pense vraiment ce truc là, ouais. Retour à petit.
Corben ?
Je pense qu'il y aura ça.
Ouais, enfin, je pense que ce qui a été annoncé, ça va arriver, quoi. Après, je pense que je l'achèterai. Enfin, s'il y a un nouvel iPad, là, je vais peut-être l'acheter.
M4
J'ai besoin de Mentos. Ouais, ouais, je sais pas.
Bon, genre, on en parlera la semaine prochaine, mais mon iPad, il date de 2017. Donc, il est...
Ah, it's time. Regarde, j'ai même mis mon T-shirt.
Pencil Pro à 1000 euros. Moi, je pense que ça vaut le coup.
Non, pas 1000 euros.
Non, t'exagères, 829.
200.
Bon, ouais, c'est ça. Pour ma part, c'est Note Patrick, vous le savez, Note Patrick, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Il y a les liens, en fait, j'ai réorganisé un petit peu les liens dans les notes de l'émission. Il y aura donc les liens vers les archives de la newsletter. Il y a trois, je ne peux pas en faire plus, c'est comme ça que ça marche chez MailerLite, mais il y a les trois derniers articles, les trois dernières newsletters qui sont disponibles sur la page des archives. Donc, si vous voulez aller trouver des articles sans vous être abonné à la newsletter, vous pouvez toujours le faire pour les trois dernières semaines. Sur ce lien-là, vous pouvez aussi vous y abonner si vous le souhaitez sur le même lien. Et puis il y a le réseau WhatsApp, enfin la chaîne WhatsApp qui en est à 997 followers. On arrive à 1000 followers sur la chaîne WhatsApp, je n'en reviens pas. Il y a même des gens, j'ai fait un sondage, il y a même des gens qui sont abonnés à la chaîne WhatsApp qui n'écoutent plus les podcasts.
C'est fou,
c'est incroyable. Donc il y a de l'écrit, il y a de la vidéo, il y a de l'audio, je suis un studio multimédia à moi tout seul, et vous retrouvez tout ça dans les notes de l'émission, ou alors tout simplement sur notepatrick.com, et n'oubliez pas le Patreon, vous le savez, c'est le lien le plus important, il faudrait que je le mette avec des petites étoiles qui brillent, vous savez, ou un truc une technologie qui fait sortir le lien de l'écran, qui vous arrive sur la tête, parce que c'est celui-là qu'il faut retenir, patreon.com/rdvtech, c'est de loin le plus important, non, je plaisante. Faites ce que vous voulez. Mais quand même. Mais non, ça va. Bon, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une semaine pour parler d'Apple. Là, on va rigoler pour parler de produits. Ça sera drôle. Très bien. À très vite. Ciao à tous.
Ciao tout le monde.
€32 par mois, le Pencil Pro, l'abonnement. Pas mal.
Ouais, voilà, c'est parfait.
C'est ça que ça
le Razer as a service. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Merci à vous, plus. En tout cas, c'était Ciao. Cool.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.